Rudolf Steiner, Mythe et mystère égyptien. Sixième conférence faite à Leipzig le 8 septembre 1908. À la réflexion, plus d'un parmi vous aura peut-être été choqué par ces exposés peu conventionnels sur l'évolution de la Terre et du système solaire en rapport avec l'être humain. Vous avez pu vous dire, nous avons vu que les forces les plus pernicieuses de l'évolution sont liées à la Lune, et ce n'est que grâce au départ de la Lune que la Terre a pu trouver des conditions propices au progrès de l'homme. Mais où est, dans tout cela, la Lune romantique que nous connaissons, cette poésie, née pourtant de sentiments réels, faite de tous les effets magiques que la Lune exerce sur nous, sur l'homme? Le contraste n'est qu'apparent, et il disparaît dès l'instant où nous étudions les faits en embrassant tous leurs aspects. Si nous examinions aujourd'hui les propriétés physiques de la masse lunaire, nous verrions qu'elle est impropre à nourrir la vie telle qu'elle se manifeste sur la Terre. En même temps, il nous faut constater que tout l'éthérique lié à la Lune et à ses substances physiques est tel, pour la plus grande partie, qu'il se présente comme inférieur, décadent, par rapport à celui de notre propre corps. Et si nous allions jusqu'à étudier, à l'aide de la clairvoyance, l'astralité des êtres lunaires, dont il nous est parfaitement permis de parler, nous pourrions nous convaincre qu'on y trouve des sentiments infiniment plus mauvais, plus bas que la plus laide expression qui existe sur Terre. Il y a donc sur la Lune des êtres, des éléments qui, tant à cause de leur physique, de leur éthérique que de leur astralité, ont dû être rejetés de la Terre afin que celle-ci puisse continuer sa route, délivrée de leur influence pernicieuse. Mais nous devons à présent prendre conscience d'un autre fait. Il ne faut pas, lorsqu'on a constaté qu'une chose est mauvaise, en rester là. Car dans l'évolution, l'existence de tout ce qui est vil et méchant correspond à quelque événement important. Dans la mesure du possible, il faut que tout ce qui est tombé dans les sphères inférieures soit purifié, relevé par d'autres êtres plus parfaits, afin de pouvoir collaborer encore au travail universel. Lorsque nous trouvons en quelque endroit de l'univers des êtres particulièrement bas, nous pouvons être sûrs qu'à leur destinée est liée celle d'êtres élevés, si riches en bonté, en beauté, en perfection, qui peuvent ramener vers le bien les forces les plus mauvaises. Et si tout ce qui est inférieur est uni à la Lune, il est vrai que, d'autre part, des êtres particulièrement élevés lui sont également liés. Nous savons déjà que sur la Lune réside par exemple la très haute entité spirituelle de Yahvé. Un être aussi parfait, doué d'une telle force, d'une telle splendeur, est aidé par de nombreuses troupes de bons serviteurs. Nous devons donc nous représenter que ce sont les êtres les plus bas qui ont quitté la Terre avec la Lune. Mais en même temps, les êtres capables de transformer le mal en bien, la laideur en beauté, sont restés unis à la Lune. Cela n'aurait pu se faire s'ils avaient laissé les forces laides dans le corps de la Terre. Il fallait qu'ils les en retirent. Mais pourquoi tout cela devait-il apparaître? Pourquoi la laideur? Pourquoi le mal? Le mal et la laideur étaient nécessaires, parce que, sans leur influence, l'homme n'aurait jamais pu évoluer. Il n'aurait pas pu devenir un être autonome, indépendant. Rappelons-nous notre étude précédente. Nous avons vu que la nature inférieure de l'homme plongeait dans l'eau, que cette moitié de son être vivait dans la sombre masse liquide de la terre. En ce temps-là, il n'y avait point d'os. Il n'y avait pas de forme humaine figée. L'homme était un être végétal, ressemblant à une fleur, pris dans une continuelle métamorphose. Et il en serait resté là sans l'action des forces lunaires. Si la Terre était restée uniquement exposée à l'influence du Soleil, la mobilité de l'homme aurait extraordinairement augmenté. La Terre aurait évolué avec une rapidité que l'homme n'aurait pu supporter. Jamais la forme humaine actuelle n'aurait pu naître. En revanche, si les forces de la Lune avaient agi seules, l'homme se serait bientôt pétrifié. Sa forme se serait figée dès l'instant de sa naissance, et il serait devenu une momie pour toujours. L'homme se développe aujourd'hui entre ces deux extrêmes, entre la mobilité sans fin et la fixité dans la forme. La Lune physique n'est plus que scorie, parce que les forces qui fixent la forme résident en elle. Seules les hautes entités puissantes qui sont unies à la Lune peuvent agir à l'intérieur de ces formes. Deux groupes de forces dirigent donc leur influence vers la Terre. Les forces du Soleil et celles de la Lune. Les unes stimulantes, les autres pétrifiantes. Imaginez qu'un immense géant vienne dérober le Soleil. À l'instant même, nous serions figés comme des momies, et si durement que nous ne pourrions plus jamais perdre notre forme. Mais supposons qu'un géant vienne enlever la Lune. Tous les beaux gestes mesurés, retenus, harmonieux que nous pouvons faire disparaîtraient, feraient place à une agitation permanente. Nous serions intérieurement sans cesse en mouvement. Nous pourrions allonger tout à coup la main indéfiniment, puis la recroqueviller. La force de métamorphose irait dans le sens du gigantisme. Actuellement, l'homme se maintient en équilibre entre ces deux groupes de forces. Le cosmos est plein de sagesse, non seulement dans les substances et les formes qui s'y trouvent, mais aussi dans les rapports des choses entre elles. Et pour évoquer devant notre âme la sagesse infinie qui anime ce cosmos, nous allons étudier un de ces rapports en liaison avec Osiris. L'Égyptien voyait en Osiris l'influence de l'astre solaire sur notre Terre, à l'époque où celle-ci était encore enveloppée de brouillard vaporeux, où l'air n'existait pas encore. Pour lui, l'instant où l'homme commença à respirer l'air est celui où se scinda l'entité Osiris Seth. C'est par l'action de Seth, ou Typhon, que le souffle de l'air pénétra en nous. Typhon, le souffle du vent, se détacha de la lumière du soleil, et Osiris ne fut plus que cette lumière agissante. C'est le moment aussi où l'être de l'homme fut soumis à la naissance et à la mort. Ce qui s'effectuait autrefois par un changement de forme, un peu comme un vêtement que l'on endosse et que l'on enlève, s'était profondément transformé. Au temps où les forces qui provenaient des hautes entités solaires n'avaient pas encore quitté la Terre, si l'homme avait été capable d'éprouver un sentiment, il aurait élevé vers ces êtres solaires un regard plein de reconnaissance. Mais lorsque, de plus en plus, le soleil s'éloigna de la Terre et que le brouillard où résidait la nature humaine supérieure se leva, l'homme, de moins en moins capable de percevoir l'influence directe du soleil, commença à prendre conscience des forces de son être inférieur. Et c'est là qu'il saisit son jeu, qu'il en prit possession. Quand il plongeait dans la partie inférieure de son être, il devenait conscient de lui-même. Mais pourquoi l'entité que nous connaissons sous le nom d'Osiris s'est-elle obscurcie? Avec le départ du soleil, la lumière cessa d'agir, mais Yahvé resta tout d'abord sur la terre, jusqu'au moment où la lune se retira. Osiris était l'esprit qui renfermait en lui la force de la lumière solaire. Lorsque la lune se sépara de la terre, il reçut la mission de l'accompagner, pour diriger de là les rayons solaires vers la terre. Nous avons vu le soleil se retirer d'abord. Yahvé reste dans la terre avec les siens, avec Osiris. L'homme apprend à respirer, puis la lune se retire. Osiris part avec elle, et il reçoit la tâche de réfléchir depuis la lune la lumière du soleil vers la terre. Quand la légende dit qu'Osiris est déposé dans un coffre, cela signifie qu'il se retire avec la lune. Auparavant, l'homme recevait du soleil l'action d'Osiris. il a désormais l'impression que ce qui lui venait autrefois du soleil lui vient maintenant de la lune. Quand rayonnait vers l'Égyptien la lumière lunaire, il disait « C'est toi, Osiris, qui sur la lune fais rayonner vers moi la lumière du soleil, l'essence de ton être. » Mais la lumière du soleil est reflétée par la lune sous une forme chaque jour différente. La première, c'est lorsque la lune n'est au ciel qu'un croissant très fin. La seconde, c'est la lune du deuxième jour, déjà plus forte, et ainsi de suite. 14 formes qui correspondent aux 14 jours jusqu'à la pleine lune. Pendant 14 jours, Osiris se tourne vers la Terre sous les 14 formes différentes du disque lunaire illuminé. Elles sont extrêmement importantes, ces 14 formes, ces 14 phases de croissance que la Lune, c'est-à-dire Osiris, traverse pour nous renvoyer la lumière du Soleil. Ce que fait ainsi la Lune est lié dans le cosmos au fait que l'homme a appris à respirer. L'homme n'a pu respirer que lorsque ce phénomène s'est déroulé parfaitement dans le ciel. Alors seulement, l'homme a été uni au monde physique, et le premier germe du « je », du « moi », a pu prendre naissance en son être. La connaissance égyptienne a revêtu plus tard, d'une légende, ce que nous venons de décrire. Osiris gouvernait autrefois la terre, mais un jour apparut Typhon, le vent. C'est l'époque où l'eau se condense assez complètement pour que l'air apparaisse et où l'homme apprend à respirer. Typhon a éteint la conscience d'Osiris, il l'a tué, l'a mis dans un coffre et l'a livré à la mer. Comment pourrait-on exprimer l'événement cosmique par une image plus riche de sens? Tout d'abord, le dieu solaire Osiris règne, puis il est chassé avec la lune. La lune est le coffre qui est rejeté à l'océan cosmique. Osiris se trouve désormais dans l'espace. La légende ajoute, lorsqu'Osiris a été retrouvé, lorsqu'il a émergé de l'espace cosmique, son corps a été coupé en 14 fragments. Il a été partagé en 14 morceaux, enterré en 14 endroits différents, dit la légende. C'est là le symbole merveilleux d'un processus cosmique. Les 14 visages de la Lune, les phases lunaires, sont les 14 morceaux du corps d'Osiris dépecés. Osiris tout entier, c'est la totalité du disque lunaire. Tout ceci semble n'être tout d'abord qu'un symbole, mais nous voyons qu'il y a derrière une réalité. Nous en arrivons maintenant à une clé sans laquelle on ne peut accéder au mystère du cosmos. Si cette harmonie entre les forces du Soleil, de la Lune et de la Terre ne s'était pas formée, si la Lune n'était pas apparue sous 14 phases différentes, il y a quelque chose qui ne se serait pas produit. Chacune d'elles a exercé une influence capitale sur l'évolution de l'homme sur la Terre. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre, mais qui est pourtant exact. Autrefois, avant qu'Osiris ne se fût retiré de la terre, l'homme, sous sa forme lumineuse, était dépourvu de quelque chose qui est aujourd'hui de la plus grande importance. Sa moelle épinière. Vous savez que des nerfs partent d'elle. Ceux-ci n'existaient pas non plus, même en germe, à l'époque où la Lune était encore unie à la terre. Les 14 phases de la Lune, dans leur ordre de succession, eurent pour résultat la formation de 14 cordons nerveux rattachés à la moelle épinière de l'être humain. Grâce à l'action des forces cosmiques, 14 cordons nerveux correspondirent à ces 14 phases ou formes de la Lune. Tel est le résultat de l'action d'Osiris. Le cycle lunaire correspond encore à autre chose, car ces 14 phases n'en sont encore que la moitié. Il y en a 14 de la nouvelle lune à la pleine lune, et 14 autres de la pleine lune à la nouvelle lune. Pendant cette seconde période, l'influence d'Osiris ne se fait pas sentir. La lune reçoit de moins en moins la lumière du soleil pour ne plus tourner vers la terre qu'une face non éclairée au moment de la nouvelle lune. Les 14 phases de cette seconde période ont, elles aussi, une influence, et la conscience égyptienne a exprimé cette influence sous la forme d'Isis. Ces 14 phases sont régies par Isis. Grâce à l'action d'Isis, 14 autres cordons nerveux partent de la moelle épinière. Il y a donc en tout 28 cordons nerveux qui correspondent aux différentes phases de la Lune. Voilà comment les événements cosmiques sont à l'origine de certaines parties de l'organisme humain. Mais, pourrait-on objecter, l'homme n'a pas seulement 28 cordons nerveux. Il n'en aurait que 28, en effet, si l'année lunaire coïncidait avec l'année solaire. Or, l'année solaire est plus longue que l'année lunaire, et c'est cette différence qui a provoqué la formation des cordons nerveux supplémentaires. C'est ainsi que nous retrouvons dans l'organisme humain l'influence d'Osiris et d'Isis venue de la Lune. Autre chose encore est rattachée à ce fait. Jusqu'au moment où la Lune commença à agir du dehors sur la Terre, la bisexualité n'existait pas encore dans l'humanité. Il n'y avait alors qu'un être à la fois masculin et féminin. La séparation des sexes ne se produisit que sous l'action alternée d'Isis et d'Osiris. Alternance qui nous vient de la Lune et, suivant que ce sont les nerfs d'Osiris ou les nerfs d'Isis qui exercent sur l'organisme une action plus grande, l'être humain devient un homme ou une femme. Un organisme où l'influence d'Isis est prépondérante devient masculin. Un corps où prévaut l'influence d'Osiris devient féminin. Naturellement, les deux forces agissent dans chaque être, homme ou femme, mais de telle sorte que chez l'homme, le corps éthérique est féminin, et que chez la femme, le corps éthérique est masculin. C'est là l'un des rapports merveilleux qui unissent l'être humain aux phases de la vie cosmique. Nous avons vu que non seulement les forces des corps célestes, mais aussi les différentes combinaisons de leurs positions réciproques ont une action sur l'homme. Sous l'influence des 28 cordons nerveux qui partent de la moelle épinière, se sont formés l'organisme masculin et l'organisme féminin. Nous voyons maintenant un fait qui éclairera profondément pour nous le cosmos et les rapports qu'il a avec l'évolution de l'être humain. Ces forces sont celles qui donnent sa forme à l'homme, mais cette forme ne se fiche pas. Il s'établit un équilibre entre l'influence du soleil et celle de la lune. N'oublions pas, dans ce qui va suivre, qu'il ne s'agit pas d'une symbolique quelconque, mais de faits réels. Qui est Osiris à l'origine? L'Osiris non divisé. Qui est l'Osiris morcelé? Ce qui autrefois ne faisait qu'un en l'homme est maintenant divisé en 28 nerfs. C'est en nous-mêmes qu'est accompli le morcellement. Sans cela, la forme humaine n'aurait jamais pris naissance. Mais qu'est-ce qui s'est d'abord formé sous l'influence du soleil et de la lune? La collaboration de tous les cordons nerveux ne provoqua pas seulement la différenciation extérieure des sexes, mais à l'intérieur de l'être humain également, quelque chose se forma sous l'influence du double principe masculin et féminin. L'action intérieure d'Isis sur l'organisme a eu pour résultat le poumon. Le poumon est le régulateur des influences de Typhon ou de Seth. Et Osiris impulse de façon masculine cet organe dû à une influence créatrice féminine. Par la respiration, le poumon est rendu productif. Les effluves qui partent du soleil et de la lune règlent le principe masculin et féminin. Dans chaque être féminin, un principe masculin, le larynx. Dans chaque être masculin, un principe féminin, le poumon. Isis et Osiris sont actifs dans la nature supérieure de tout être humain. Tout être humain participe des deux sexes, car il a des poumons et un larynx. Chaque être, qu'il soit homme ou femme, a le même nombre de nerfs. Après s'être échappés ainsi des régions inférieures de la nature humaine, Isis et Osiris ont engendré un fils, le créateur de l'homme terrestre, de l'avenir. Ils ont donné naissance à Horus. Isis et Osiris ont engendré un enfant que soigne et protège Isis. C'est le cœur humain qu'abritent les ailes des poumons de la mère Isis. Cette conception égyptienne nous montre que, dans les anciennes écoles de mystère, on considérait la nature supérieure de l'être humain comme masculine et féminine. C'est ce que l'Indien, lui, appelait Brahma. Le néophyte indien voyait déjà dans la forme originelle de l'homme cet être supérieur qui apparaîtra plus tard. On lui montrait l'enfant Horus, et il lui était dit « Tout cela est né du son originel, la vaque, le son qui s'est différencié en de multiples sonorités. » Cette expérience du néophyte indien nous a été conservée dans un curieux passage du Rig Veda. Voici ce passage. Vers l'homme arrivent les sept d'en bas, les huit d'en haut, les neuf de derrière, les dix des profondeurs de la cavité rocheuse, les dix de l'intérieur, pendant que la mère s'occupe de l'enfant qui doit boire. C'est là un passage étrange. Représentons-nous bien cet Isis dont je vous ai parlé, le poumon, cet Osiris que je vous ai décrit, l'appareil respiratoire, et réfléchissons comment la voix se fait jour à travers ses organes, comment elle se différencie en sons venant de la gorge ou des poumons, en sons articulés venant de différents côtés. Sept viennent d'en bas, du larynx, etc. L'action réelle de tout ce qui est lié à notre appareil respiratoire se trouve résumée dans cette phrase. Là où se différencie et se forme le son, se trouve la mère supérieure qui soigne et protège l'enfant. La mère, c'est le poumon. L'enfant, c'est le cœur humain formé par toutes ces influences diverses et d'où viennent les impulsions qui animent la voix humaine. C'est ainsi que se révélait au néophyte la vie mystérieuse qui anime le cosmos, telle qu'elle s'était déroulée au cours des temps. Et nous verrons comment les autres parties constitutives de l'être humain sont venues s'ajouter à ce tissu. Cette science égyptienne, ésotérique, est en même temps un chapitre de l'anatomie occulte telle qu'elle était enseignée dans les écoles égyptiennes secrètes, dans la mesure où l'on connaissait les rapports qui existent entre les entités cosmiques et le corps physique de l'homme.